Le rendez-vous. Rendez-vous.
Plateau Enfance avec vous, Catherine Millet, écrivaine, critique d'art, directrice fondatrice de la revue Art Press. Après La vie sexuelle de Catherine M, c'était en 2001, qui vient de ressortir en version augmentée. Après Jour de souffrance en 2008, vous signez aujourd'hui Une enfance de rêve, toujours chez Flammarion, troisième volet d'un projet autobiographique. Vous y abordez votre enfance à Bois-Colombes dans les années 50, le deux pièces au troisième étage, vous l'aîné, un frère, Philippe. Vous y travaillez aussi la vie de vos parents, Simone, épouse malheureuse, Louis, père humilié, leur rencontre à la fin des années 30, la belle-mère qui habite avec eux, ce qui n'est pas toujours très bien. Leur jeunesse pendant la guerre, le divorce après 35 ans de mariage. À quel moment vous avez trouvé le titre « Une enfance de rêve » ?
Ah, tout de suite. En général, mais c'est très rare que je cherche les titres. Ils arrivent tout de suite. Et une enfance de rêve, je l'ai eu ce titre avant même de commencer à travailler, je crois. Après, j'ai eu peur que ça soit un peu mièvre comme titre, et donc j'ai cherché autre chose. Et puis un beau jour, je me suis dit bah non, je reviens à mon idée de départ, et c'est une enfance de rêve.
Qu'est-ce voilà. que vous aviez trouvé ?
Oh ben non, j'ose pas le dire.
Ah bah si.
Non, j'ai oublié.
Ça vous arrange bien. Pourquoi vous aviez peur que ce soit mièvre, une enfance de rêve ? Qu'est-ce que vous pensiez mettre derrière ce titre-là, avant même d'avoir écrit le livre ?
Ben, en fait, mon idée, c'est que je pensais que j'avais eu une enfance agréable. C'est un paradoxe, parce que je raconte des scènes qui sont douloureuses, je raconte des peurs ou des souffrances qui ont été les miennes pendant mon enfance. Mais finalement, tout le souvenir qui m'a habité après, à partir du début de ma vie d'adulte, ce sont plutôt des souvenirs agréables. En fait, j'aime mon enfance, voilà. Donc je considère que c'est une enfance de rêve, même si, voilà, elle a été un peu agitée à cause de la vie de mes parents.
Qu'est-ce que vous recherchiez au départ en revenant sur votre enfance après les deux précédents livres, Catherine Millet ?
Qu'est-ce que je cherchais ? En fait, peut-être que pour une part, j'ai cherché à répondre à des questions qu'on me posait justement à l'issue de la publication, disons surtout de la vie sexuelle. Hein. Très souvent, une des questions qui revenait, c'était mais comment vous expliquez que si jeune, vous étiez sans inhibition, vous alliez dans des partouzes, ça posait pas de problème, etc. Et je me suis dit, mais oui, un jour, je me suis dit, mais tiens, c'est vrai, après tout, pourquoi j'aurais pu être un peu plus coincée, peut-être réagir avec un petit peu de crainte qu'on m'aurait fait peut-être certaines de mes copines à l'époque, etc. Et qu'est-ce qui a fait que non, je ne me suis pas posé de questions, je n'avais pas de tabou d'ordre moral. Donc voilà, c'était une des questions comme ça à laquelle j'avais envie de répondre. Et je ne sais pas si j'y réponds dans ce livre, mais en tout cas, je cherche un petit peu. Quoi.
Voilà. Alors, le livre s'ouvre sur deux souvenirs. Octobre 51, vos parents rentrent à la maison avec un bébé, c'est votre frère Philippe. Et puis l'autre souvenir, c'est vous, votre grand-mère et votre mère, vous attendez des livreurs qui doivent vous apporter des lits jumeaux. Vous passez devant la porte vitrée qui sépare la cage d'escalier du vestibule de l'immeuble et vous éclatez en sanglots. Qu'est-ce que ces deux souvenirs liés à votre statut et à votre frère, en fait, disent de ce projet autobiographique ? Parce que vous commencez par cela, deux souvenirs.
J'ai l'impression d'être chez le psychanalyste.
Bah non, pour autant, non, pas du tout, parce que c'est comme ça que vous commencez. Qu'est-ce que ces deux souvenirs vous permettent, en fait ?
Alors, je pouvais pas commencer par ma propre naissance, hein, de fait. Donc, mais
c'est toujours possible.
On peut toujours raconter. C'est vrai. Après tout, je raconte des choses qui sont antérieures même à ma naissance, la rencontre de mes parents, par exemple. Bon, mais alors il y avait une chose à laquelle je tenais parce que des livres sur l'enfance, il y en a. Des livres qui évoquent autant qu'on peut le faire, la petite enfance, il n'y en a pas tellement. Donc quand même, je me suis accrochée à ce qui me restait de souvenirs vraiment de la petite enfance. Or, j'avais 3 ans quand mon frère est né, et de fait, c'est un de mes premiers souvenirs. Bon, et mon éjection de la chambre de mes parents où je dormais avant la naissance de mon frère, et en effet, on a livré ce jour-là un nouveau lit, on m'a installée dans une autre pièce, et parce que c'était mon frère qui occupait désormais ce petit lit de bébé dans la chambre de mes parents. Voilà. voilà, ça fait partie de mes tout premiers souvenirs. Et quoi vous dire d'autre maintenant? Non, il faut que j'écrive un nouveau livre.
Pour répondre à cette question. Alors peut-être une autre question par rapport à cette question que je viens de poser. Est-ce que c'est dès le départ comme ça que vous saviez que vous commenceriez le livre?
Non, parce que c'est pas par ça que j'ai commencé à écrire en fait. Avant de me mettre au travail, j'ai enquêté. Je suis retournée sur les lieux. J'ai visité l'école maternelle. Je me suis promenée dans Bois-Colombes. C'était un peu cafardeux d'ailleurs comme balade. Bon. Et puis qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai un peu enquêté sur ma famille. J'ai plus de famille proche et j'avais perdu le contact avec la famille un petit peu plus lointaine. J'ai renoué quelques contacts. J'ai revu d'anciens camarades d'école comme ça. Bon, avec qui j'avais plus du tout de relations. J'ai enquêté et j'avais pas mal de matière sur alors notamment les origines de la famille. Bon, et ça m'est apparu que quand même, pour expliquer ce qu'avait été le climat familial pendant ma jeune enfance, c'était bien de rappeler dans quelles circonstances mes parents s'étaient rencontrés, mariés tout de suite. Ils se sont mariés en juin 39, vous imaginez. Bon, mon père est parti à la guerre, il a été fait prisonnier très très vite, et donc pendant 5 ans ils se sont pas vus. Et il me semble que quand même ça explique beaucoup de choses de la suite à laquelle moi j'ai participé. Donc en fait le premier chapitre que j'ai écrit, c'est celui qui occupe la deuxième position dans le livre et qui raconte l'histoire de mes parents plutôt. Ouais.
Quand vous avez entrepris ce récit, quels sont les premiers souvenirs de votre enfance qui vous sont apparus?
Ah, alors c'est très facile, c'est mon le souvenir, c'est aussi un souvenir alors très très ancien sans doute, et sans doute en partie fantasmé. C'est quand j'ai découvert la mer pour la première fois. J'étais encore quasiment un bébé et mes parents ont pris quelques jours de vacances. Nous sommes allés à Rivabella et voilà. Et on m'a fait découvrir la mer. Et j'ai un souvenir au moins auditif de ma mère se moquant de moi parce que j'étais là, sans doute éberluée, devant une grande plage comme ça. C'était à marée basse. Et moi, l'image enregistrée, c'est... voilà, une étendue de sable à perte de vue. Et ma mère, j'ai dans l'oreille ma mère disant « Elle croit que c'est ça la mer. Elle croit que c'est ça la mer. » Bon, le psychanalyste peut commenter maintenant.
Je ne commenterai rien, je ne le suis pas. Alors, après donc les deux souvenirs d'enfance, s'ensuit, comme toujours chez vous d'ailleurs, une description minutieuse du deux pièces. Le couloir à gauche, la cuisine, au fond une pièce à usage variable, à droite la porte à double battant d'un placard. Quelques pages plus loin, il y aura toute une exposition presque balzacienne de Bois-Colombes, de ses origines, de son nom. Qu'est-ce qui se joue chez vous dans cet usage de la description?
Alors là, pour ce livre précisément, il faut que je le dise, j'étais dans Balzac quand j'ai commencé à travailler sur ce livre, parce que on avait préparé avec l'artiste Dominique Gonzalez-Foster et puis Tristan Béra, qui travaille avec elle, une performance autour de Balzac. Et donc, ça m'avait amené à relire, ou à lire d'ailleurs, des choses de Balzac. Et je me suis dit, mais finalement, d'abord, j'ai énormément lu Balzac quand j'étais enfant et
vous
adolescent.
Vous en parlez d'ailleurs?
Ah bah oui.
Identification
à Rubempré. Ah bah oui, bien sûr. Bon. Et donc, je me suis replongée là-dedans et je me suis dit, mais finalement, c'est pas si mal de donner cette étoffe comme ça au récit que donnaient les auteurs du 19e siècle. C'est-à-dire, c'est pas simplement, on raconte pas simplement des faits, on dit qui sont les gens, d'où ils viennent, leur famille, le décor, qu'est-ce que c'est cette ville dans laquelle ils habitent, etc. Bon. Et je crois que c'est ça qui attache aussi le lecteur et qui fait même, c'est mon espoir, qu'on peut des fois relire comme ça un livre parce qu'il y a des petits détails auxquels on peut être sensible à la deuxième lecture et tout ça. Donc j'ai voulu donner de l'étoffe, un peu d'épaisseur à mon récit.
Quels étaient les romans de Balzac que vous relisiez donc pour cette performance?
Qu'est-ce que j'ai relu? Bien sûr, Les Illusions perdues, ce qu'on lit enfant, Eugénie Grandet, bien sûr.
Et en quoi consistait la performance?
On faisait des lectures, on avait fait un montage de textes et on dialoguait à travers des citations de Balzac, comme ça. Et c'était assez amusant.
Ouais. Vous parlez tout à l'heure de Rubin Pré, auquel vous vous identifiez. On parle aussi de Julien Sorel dans votre texte. Pourquoi des héros masculins? Il n'y avait pas d'identification féminine possible? Il n'y avait pas d'héroïne dans votre enfance et adolescence?
Ça, c'est une question intéressante. Parce que
toutes les autres. On y arrive.
Non, mais parce qu'elle touche à quelque chose de vraiment, assez profonde. Je ne sais pas comment ça pourrait se passer aujourd'hui pour une très jeune fille qui commencerait à s'intéresser, à avoir envie d'écrire aujourd'hui des livres. Ça a sans doute changé. Mais quand moi, j'ai commencé à lire, la littérature, c'était une littérature écrite par des hommes. Bon. Et si on avait, comme c'était déjà un peu mon idée, l'envie d'écrire soi-même, à son tour, on s'identifiait à l'écrivain, en fait. Il n'y avait pas d'écrivaine. Hein, bon. Et donc, je m'identifiais... Je pense que lorsque je m'identifiais au héros masculin, je m'identifiais à ce que ce héros reflétait finalement de l'auteur lui-même, en quelque sorte. Pour moi, ce que je voulais égaler, ce n'était pas simplement Rubin Pré, c'était Balzac aussi, ou c'était Balzac au travers de Rubin Pré. Voilà, je crois que c'est ça la bonne réponse.
Alors, ce qu'on peut comprendre aussi quand on lit le récit, c'est que le livre, c'est aussi non pas la naissance véritablement d'un écrivain, mais une tentative pour comprendre ce qui s'est joué pour vous avec l'écriture, la lecture, qui intervient très tôt dans votre parcours, dans une famille qui, a priori, n'appelait pas cela. Est-ce que la littérature a représenté pour vous le moyen, et l'écriture plus tard, de sortir de ce milieu ?
Oui, c'est sûr. Oui, bien sûr.
D'en sortir avec violence, comme ça a pu être le cas, par exemple, pour Annie Ernaux ou des...
Non, il n'y a pas eu de violence. Je raconte la seule violence qui apparaît dans le livre et qui était d'ailleurs la seule violence qui s'est manifestée comme ça de la part de mon père à mon égard. C'est que, je ne sais pas, à 16 ou 17 ans, un jour j'ai disparu, j'ai fugué comme ça. J'avais envie de m'échapper de cette ambiance familiale. Enfin, est-ce que j'avais envie de m'en échapper? Je ne suis même pas sûre. J'avais surtout envie d'aller baiser. Hein, il faut dire les choses. J'avais envie, j'avais rencontré un garçon et je n'allais pas faire ça chez mes parents. Bon. Donc, je suis partie pour faire ça. C'est ce qu'ils font, oui. Mais à l'époque, non. À l'époque, il fallait s'enfuir pour avoir sa première expérience sexuelle. Et c'est donc ce que j'ai fait. Et mon père m'a accueillie, oui, par des baffes assez douloureuses.
Catherine, est-ce que vous avez eu, parce que quand on regarde ce genre de récit, on pense à Annie Ernaux, on pense à Didier Ribon, récemment on pense aussi par exemple à Édouard Louis. Est-ce que vous avez eu honte de votre milieu, de la violence verbale par exemple de votre mère, que vous citez régulièrement dans le texte?
J'avais honte en moi-même. J'avais honte parce que je percevais, parce que j'avais quand même envie, de sortir quand même de ce milieu, pour dire les choses comme on les dit, de grimper dans l'échelle sociale, d'avoir ce mode de vie qui me paraissait beaucoup plus paisible qu'avaient certaines de mes amies bourgeoises. D'ailleurs, j'en sais rien, hein, ça cachait peut-être ce mode de vie bourgeois, les mêmes drames que ceux que je connaissais chez moi. Bon, mais j'avais forcément cette aspiration. Et alors, c'était quoi la question déjà?
Savoir si vous aviez aussi, si la littérature pour vous a été à un moment donné la marque, non pas de la... Enfin, oui, de la honte sociale.
Ah non, alors de la honte. Non, j'avais pas honte de mes parents. Je crois pas que j'avais honte de mes parents. J'avais honte, vis-à-vis de l'idée que moi je pouvais me faire d'eux, mais vis-à-vis de l'extérieur, non. Au contraire, je crois que j'ai compris très tôt que je pouvais jouer là-dessus, c'est-à-dire que je pouvais tout à fait être très bien dans le rôle de la petite qui est malheureuse chez elle parce que ses parents s'entendent pas et puis il y a peut-être pas tellement d'argent non plus mais elle est méritante parce que elle travaille bien en classe. Voilà. Et ce contraste-là, je crois que j'ai su l'exploiter assez vite.
Frédéric Tachou, est-ce que vous connaissez la littérature de Catherine Millet? Est-ce qu'il y a, j'imagine, La vie sexuelle de Catherine M ou même Jour de souffrance?
Oui, bien sûr. Enfin, j'ai lu le premier, La vie sexuelle de Catherine M. J'ai lu aussi des ouvrages qui, ou des essais qui débattaient un peu avec cette question de la mise en scène de sa propre vie intérieure, intime, avec des objections parfois ou des objectrices parfois assez virulentes. Mais non, après je n'ai pas suivi, je dois l'avouer, j'étais absorbé par mille choses et puis on ne peut pas tout lire, tout voir, tout entendre, tout comprendre et tout savoir. Donc malheureusement, je dois avouer là une faiblesse.
Alors, il y a une phrase qui m'a marqué dans le texte, dans le récit, c'est « La fiction avait fonction d'une cachette que je transportais avec moi, comme la tortue sa carapace qui la protège. » C'est en rapport avec les histoires que vous inventez dans la cour de l'école. À quel moment vous avez compris que la fiction, eh bien, ça ne serait pas votre voix comme écrivain, vous qui travaillez depuis des années maintenant le récit autobiographique ? Alors même que vous aviez tenté au départ.
Oui, j'ai tenté quand j'avais 15 ans, et puis j'ai abandonné ça pendant très longtemps, parce que voilà, je suis rentrée dans la vie professionnelle en tant que critique d'art, et tout ce que j'ai écrit à partir de ce moment-là, les livres que j'ai publiés, c'était des livres de critique d'art, d'histoire de l'art, bon, et ça allait très bien. Non, j'ai compris que je pouvais pas faire autre chose. Quand j'ai écrit La vie sexuelle de Catherine M, j'ai compris tout de suite que c'était ça mon truc. Enfin, ou plutôt quand j'ai enchaîné avec Jour de souffrance. Bon, alors est-ce qu'un jour j'en sortirai? Oui, j'en sais rien, parce que je vais quand même pas continuer comme ça éternellement à raconter par le menu toute ma vie. Mais enfin, c'est ça qui m'intéresse. Et d'une façon générale, je crois que c'est ça qu'il faut faire en ce moment. Je crois, enfin, je vais être très très directe. Je pense que voilà, la littérature qu'on évoquait tout à l'heure, celle du 19e de Balzac, c'était la littérature sociale, panorama social. C'est l'histoire sociale. Bon, ça s'est prolongé même aussi à travers Proust, sauf que Proust, il y a aussi l'intériorité et tout ça. Bon, je crois qu'aujourd'hui, ce qui se fait de mieux dans le domaine de la littérature, alors que ce soit de l'autobiographie, de l'autofiction, peu importe.
Le récit de soi, le roman de jeu.
Voilà, ouais. tout ça, je pense que c'est ça qu'il faut faire aujourd'hui, c'est dire la vérité directement, parce qu'on a le moyen de le faire. Je veux dire, comment dire, Stendhal, Balzac, il se déguisait en choisissant des personnages, c'est parce que les mœurs de l'époque, les mentalités faisaient que on ne pouvait pas dire je comme on peut le dire aujourd'hui. Aujourd'hui, justement, on a l'expérience de la psychanalyse. On sait quelqu'un peut prendre suffisamment de recul par rapport à lui-même pour mettre ça en scène et en faire presque un roman, d'ailleurs, moi, je pense. Bon. Et quand même, lorsqu'on parle de soi, on va creuser beaucoup plus à fond dans l'être humain que si on invente des personnages. Et puis, je trouve aussi que rien n'est plus passionnant que le réel. Que le réel, pourquoi on va inventer des histoires? Moi, je trouve que voilà, le réel est tellement, tellement plus intéressant. Alors, je dis pas les romans policiers, la science-fiction, toutes ces choses-là, d'accord, ok. Mais pour ce qui est de rendre compte de l'être humain, moi, je pense qu'il faut en passer par l'autobiographie ou la biographie, d'ailleurs, ou la biographie racontée.
Ce que font d'ailleurs les romanciers aujourd'hui.
Ce que font beaucoup de romanciers, d'ailleurs, c'est vrai. Oui, oui, exactement. Donc je pense que c'est le genre littéraire qui caractérise notre époque et peut-être à raison.